Le journal de Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Des quotas d'immigration en fonction des besoins économiques et des conditions d'accès aux soins plus strictes pour bénéficier de la sécurité sociale, les points clés de la réforme de la politique d'immigration du gouvernement. Les réactions à l'Assemblée nationale cet après-midi, dans un instant, avec Karine Bécard. L'émotion et la colère à Marseille, un an après l'effondrement de 2 immeubles et la mort de 8 personnes rue d'Aubagne. Nous écouterons la députée de ce quartier qui appelle à une véritable mobilisation pour lutter contre l'habitat insalubre. Au sommaire encore, Patrick Balkany sera le 13 novembre s'il peut sortir de prison. L'arrestation de 8 braqueurs lourdement armés tout près de la frontière suisse, un coup de filet mené par le RAID et la BRI. Le bilan des indemnisations près de 4 ans après les attentats du 13 novembre à Paris, une cinquantaine de demandes déposées depuis le début de cette année. À l'étranger, l'Iran relance ses activités d'enrichissement d'uranium et ne respecte donc plus l'accord de Vienne de 2015. Escalade calculée, nous dira Christian Chesneau. Les prix littéraires, le prix Femina pour Sylvain Prudhomme et son livre « Par les routes », un livre sur le désir de liberté que nous avons tous. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez en tête sur votre retraite, les points, la pénibilité, votre régime spécial, ce qu'il en adviendra, la clause du grand-père ou non, l'entrée en vigueur, les concertations, etc. Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, est avec nous de 19h20 jusqu'à 20h et appelez-le au 01 45 24 7000.
France Inter.
Plus exigeant sur l'accès aux soins, davantage soucieux des filières économiques en tension, ce sont les points forts de la nouvelle politique d'immigration du gouvernement qu'Édouard Philippe a dévoilé hier soir lors d'une rencontre à Matignon avec des parlementaires de la majorité. L'instauration pour les demandeurs d'asile d'un délai de carence de 3 mois pour accéder à la protection universelle maladie, pour l'aide médicale d'État qui bénéficie à 318 000 personnes sans papier, eh bien désormais certains actes non urgents pourront faire l'objet d'un accord préalable de la sécurité sociale. Et puis, des quotas d'immigration professionnelle seront fixés chaque année pour pourvoir les offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. L'immigration, sujet ultra sensible. Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Pourtant, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, pas de discussion enflammée sur ces mesures gouvernementales qui seront annoncées officiellement demain. Même à droite, un ton mesuré, la droite pouvait avoir le sentiment de s'être fait voler quelques idées.
Oui, en parlant de délai de carence, en parlant de quotas, la droite pouvait effectivement, vous le dites, avoir le sentiment de s'être fait piller quelques idées. Je rappelle tout de même que cette question des quotas, notamment, avait été au cœur des débats de la primaire de la droite et du centre. Seulement, dans le contexte d'aujourd'hui, le parti Les Républicains étant beaucoup plus affaibli, il est obligé de reconnaître que les premières mesures affichées par le gouvernement vont pour lui dans le bon sens, la députée LR Virginie Duby-Muller.
Enfin, on nomme les choses, enfin, on se rend compte qu'il y a quand même un problème d'immigration dans notre pays, même s'il y a quelques mois, le discours était inverse. Après, il faudra voir dans les mois à venir si réellement la politique mise en œuvre par le gouvernement correspond à ces affirmations et ces déclarations.
Oui, voilà, la droite attend des actes et c'est à peu près pour l'instant sa seule contre-attaque. Même à Tony, cet après-midi, dans le camp socialiste, l'élu des Landes, Boris Vallaud, a surtout donné l'impression de manquer d'arguments. Pour lui, les quotas, par exemple, eh bien, c'est tout simplement que ça ne marche pas.
Nous pensons que ça ne marche pas, que c'est une hérésie. Le gouvernement avait mal ouvert le débat sur l'immigration. Il le clôt de façon tout à fait désastreuse.
Restent les députés de La République En Marche, l'aile gauche en particulier, très sourcilleuse en général sur ces dossiers. Sauf qu'elle était justement demandeuse de quotas économiques. C'est le cas entre autres de Martine Vonneur, députée de la majorité du Bas-Rhin. Petite restriction en revanche sur le délai de carence de 3 mois pour accéder aux soins.
Un demandeur d'asile qui a reçu son récépissé de la préfecture ne bénéficie de l'accès aux soins réels qu'au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc cette mesure ne me paraît pas être à la hauteur des attentes du gouvernement. Donc peut-être une question d'affichage.
Donc globalement, une classe politique qui est apparue à faune aujourd'hui sur le sujet, laissant seulement face à face la majorité et le RN de Marine Le Pen.
Karine Bécard, les quotas d'immigration, c'est une pratique utilisée au Canada depuis très longtemps, Olivier Poujade. Là-bas, pas de polémique, l'immigration s'adapte aux besoins économiques du pays.
Au Canada, la méthode est claire, assumée, même si le terme d'immigration sélective y est également préféré à celui de quota. Chaque année, le gouvernement fixe un certain nombre de compétences, de profils à privilégier pour aider au développement économique du pays. Sur cette base, un système de points est établi et chaque candidat est classé en fonction de son expérience professionnelle, de ses diplômes, de sa maîtrise de la langue, de son âge aussi. Plus le demandeur est jeune, plus vite il sera en mesure de s'intégrer, d'après le gouvernement canadien. Les postulants les plus qualifiés ont aussi la possibilité de tenter l'Express Entry, une démarche en ligne permettant d'empocher une invitation officielle à déposer sa demande. Un score minimum est nécessaire, variable tous les mois en fonction des besoins du pays. Au 30 octobre dernier, 71 700 candidats à l'immigration avaient franchi la barre des 475 points. Des candidats élus, désignés, choisis par le gouvernement pour venir séjourner et travailler au Canada.
François Bayrou, convoqué par les juges d'instruction du pôle financier le 6 décembre, sans doute pour une mise en examen dans le dossier des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires au sein du MoDem. La députée européenne Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, dont la candidature à la Commission européenne a été rejetée, sont aussi convoquées le 6 décembre et pourraient être mises en examen. La justice cherche à savoir si des collaborateurs d'eurodéputés ont été rémunérés par des fonds publics du Parlement européen alors qu'ils étaient affectés à des tâches pour le parti centriste, pour le MoDem. Une banderole et ses mots, ni oubli, ni pardon, et puis plusieurs centaines de personnes rassemblées à quelques mètres d'un vaste espace vide rue d'Aubagne. C'était ce matin dans le centre de Marseille, un hommage aux 8 morts dans l'effondrement de 2 immeubles il y a tout juste un an, un drame qui a mis au jour le fléau de l'habitat insalubre, de l'émotion mais aussi une forte colère. Des élus de gauche qui voulaient s'approcher du lieu de recueillement ont été pris à partie et hués par des habitants. Mais la députée de ce quartier, de la rue d'Aubagne, a reçu un accueil plus calme. Alexandra Louis, députée de La République En Marche, estime que pour éviter de nouveaux drames, il faudra une mobilisation des élus avec les habitants.
On peut pas se contenter de faire de la politique du fait accompli ou de la politique du carnet de chèques. On dit aux gens, voilà, on va faire un projet ici, on va faire un projet là-bas, sans jamais les consulter. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment changer la méthode. On peut faire tous les plus beaux textes du monde à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il n'y a personne pour les appliquer sur le terrain, et notamment si les collectivités territoriales ne s'en emparent pas, on peut les coller au mur et rentrer chez nous, on n'aura servi à rien. Des textes existent depuis longtemps. Ce qui a manqué cruellement à Marseille, c'est une volonté politique. Politique du logement, c'est une politique à long terme. C'est une politique qui demande du courage. On ne l'a pas vu ici ces dernières années. On en a pour 50 ans pour sortir de l'habitat dégradé à Marseille. Il faut dire les choses à un moment donné. On a accumulé un retard qui est phénoménal.
Propos recueillis par Olivier Martoc.
La seconde demande de libération de Patrick Balkany était examinée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris.
Oui, elle est liée à sa condamnation à 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale. La Cour fera connaître sa décision le 13 novembre à 9h du matin. La Cour d'appel avait accepté sa première demande de mise en liberté après une condamnation à 4 ans de prison pour fraude fiscale à la condition du paiement d'une caution de 500 000 euros. Charlotte Piret, bonsoir.
Bonsoir.
Pour cette seconde requête, Patrick Balkany était là, à nouveau présent au tribunal. Fatigué et anxieux.
500 000 euros, c'est très difficile à trouver. Nous, on n'a plus un rond, rien. Patrick Balkany était apparu un peu hagard, amaigri, lançant ici et là des regards vers le public. À peine s'il l'avait lâché pour justifier cette nouvelle demande de remise en liberté. C'est comme la première, je souffre beaucoup. Mais ça, c'était avant d'entendre les réquisitions du ministère public contre cette demande de remise en liberté. Le risque de fuite est d'autant plus prégnant que M. Balkany a demandé à de nombreuses reprises la restitution de son passeport et la levée de son interdiction de sortie de territoire, lance l'avocat général. Il n'en faut pas plus pour faire sortir Éric Dupond-Moretti de ses gonds. Il va prendre la fuite tout seul à 71 ans et laisser Bobonne à la maison, s'agace l'avocat de Patrick Balkany. Mais vous n'y croyez même pas vous-même. Et puis, vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur le Président. Son passeport est périmé. Il va se mettre en cavale comme Dupont de Ligonnès. La sortie semble revigorer le maire de Levallois-Perret qui déplore « En France, on nous saisit tout. On ne peut pas se faire prêter de l'argent, donc je crois que je vais rester au trou ». Patrick Balkany serre quelques mains, la séance est levée, il repart avec les gendarmes.
Charlotte Piret. Près de 4 ans après les attentats du 13 novembre à Paris qui ont fait 130 morts, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme a fait aujourd'hui un bilan de la prise en charge des victimes. Cela concerne les personnes blessées physiquement ou psychologiquement et les ayants droit des personnes décédées dans ces attentats. Sophie Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Des chiffres, 107 millions d'euros d'indemnisation sur un total estimé à plus de 250 millions ont été versés aux victimes.
Oui, et la liste de ces victimes ne cesse de
s'allonger. Une cinquantaine viennent de se signaler ces derniers mois, des hommes et des femmes qui n'avaient pas été blessés dans leur chair par les balles des terroristes le soir du 13 novembre, des survivants qui s'estimaient chanceux d'avoir survécu et n'avaient pas osé se déclarer victimes. Mais 4 ans plus tard, ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi des séquelles de l'attentat, explique Julien Renki, le directeur général de ce fonds de garantie des victimes du terrorisme.
Des victimes qui ont ce qu'on appelle des blessures invisibles, qui sont blessées psychiquement, qui, dans les premiers temps, ont peut-être refusé de se reconnaître comme victimes parce qu'elles étaient survivantes. Mais c'est avec le temps seulement qu'elles ont pris conscience de la gravité du traumatisme subi. Elles sont confrontées aux réminiscences, elles sont confrontées à ce qu'on appelle le stress post-traumatique particulièrement intense. Et c'est ces victimes qui, aujourd'hui, se tournent vers les soins et sollicitent le fonds de garantie. Et il nous appartient à nous de nous adapter à leur rythme. Les victimes, elles ont 10 ans pour saisir le fonds de garantie.
Depuis 2015, ce fonds de garantie a recensé 6000 victimes d'attentats au total contre 4000 entre 1986 et 2014. Le 13 novembre 2015 reste l'attentat qui a provoqué le plus de victimes. Près de 2700 ont été prises en charge après avoir perdu un proche ou subi elles-mêmes des blessures visibles ou invisibles.
Sophie Parmentier, et 4 ans après, France Inter a décidé de consacrer un long format à la genèse, l'histoire, la préparation des attentats de Paris et de Bruxelles. 13 novembre, L'Enquête, c'est une série en podcast à télécharger sur franceinter.fr. 9 épisodes pour reconstituer le parcours des terroristes entre Paris et Raqqa. 9 épisodes signés Sarah Guibaudot. Les causes précises de l'accident d'autocar de la compagnie Flixbus dimanche dernier sur l'autoroute A1 entre Amiens et Saint-Quentin restent inconnues pour l'instant. 33 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Le bus a fait une sortie de route et s'est couché sur le flanc. Les analyses toxicologiques pratiquées sur la conductrice n'ont révélé aucune présence d'alcool ni de stupéfiants, selon le parquet d'Amiens. Aucun autre véhicule n'est impliqué. Cet accident pose le problème du fonctionnement de ces compagnies de bus très nombreuses. Maxime Deps, la conductrice de l'autocar ne faisait pas partie du personnel de Flixbus.
Oui, tout simplement, car Flixbus n'est pas l'employeur direct de ses chauffeurs, mais ceux de ses compagnies privées qu'on trouve un peu partout sur le territoire. D'où la réponse immédiate de Flixbus.
On ne peut pas, nous, directement être derrière tous les chauffeurs.
Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus France.
Nous, ce qu'on impose contractuellement à tous ces partenaires avec lesquels on travaille, c'est évidemment le respect de l'ensemble de la réglementation sur les temps de repos, sur les temps de conduite. Et donc, on est très attentif de ce point de vue-là à ce que, justement, cette réglementation soit respectée à la lettre.
Il n'empêche que des chauffeurs, la plupart en CDD, sous couvert d'anonymat, commencent à dénoncer des cadences dans le secteur, des rythmes jour-nuit très fatigants, des allers-retours qui ne respecteraient pas les 45 heures de repos entre 2 vacations hebdomadaires, tout ça par souci de rentabilité. Flixbus n'incite aucunement à ça, précise l'opérateur, mais tout ça pose question à Baptiste Arsal, secrétaire général du syndicat UNSA Transport.
Que Flixbus peut dire on est dans les règles ou pas, à voir avec les autorités compétentes, à vérifier dans les entreprises, et si l'entreprise joue le jeu. Mais est-ce qu'il y a des contrôles suffisants? J'en suis pas persuadé, il en faudrait beaucoup plus, parce que il y a des vies en jeu.
Flixbus, de son côté, assure ne pas transiger sur la sécurité. L'opérateur impose même, dit-il, à ses partenaires sur les trajets de nuit, un deuxième chauffeur, ce que la loi, aujourd'hui, n'exige même pas, chose que déplorent les syndicats.
Enquête de Maxime Deps.
Un groupe de 8 braqueurs présumés lourdement armés ont été interpellés il y a quelques jours.
Et annonce faite par le procureur de la République de Lyon aujourd'hui, un coup de filet au terme de plusieurs mois d'enquête. La BRI et le RAID ont été mobilisés. Emmanuel Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
On était là vraiment avec une équipe de gangsters de très haut niveau. Les arrestations ont eu lieu près de la frontière suisse.
Oui, dans la forêt de Collonges, à 2 pas du canton de Vaud, près de Genève. 8 hommes avec tout l'attirail des professionnels, des attaques de fourgons blindés, des fusils d'assaut, des cadres d'explosifs pour faire sauter le blindage, un utilitaire et une BMW très puissante volée. 8 membres d'un gang de Lyonnais, en tout cas de la région, avec 2 renforts très connus dans le Nord et en Ile-de-France par les enquêteurs de police judiciaire qui luttent contre le grand banditisme et le crime organisé. L'un des 2 était sorti de prison en mars dernier, des partenaires de Braco, adeptes pour certains des GoFast il y a quelques années, pour remonter des stocks de drogue du Maroc, une alliance de malfaiteurs originaires de la communauté, des gens du voyage et de cités autour de Lyon et de Grenoble qui utilisaient des brouilleurs, des téléphones cryptés pour déjouer les filoches, les surveillances des policiers de la brigade de recherche et d'intervention lyonnaise. Une BRI qui aura fait tomber 2 équipes en l'espace de 2 ans avec de très bons renseignements. Tous ces braqueurs visaient effectivement la Suisse, ces fourgons semi-blindés qui passent toujours par le même itinéraire, bien plus facile à attaquer qu'en France, sauf si on tombe sur les policiers du raid en pleine forêt avant même de démarrer.
Emmanuel Leclerc. À l'étranger, l'Iran a réduit un peu plus aujourd'hui ses engagements internationaux conclus à Vienne en 2015 en matière nucléaire, accord rejeté par les États-Unis de Donald Trump. Téhéran reprend dans une usine souterraine ses activités d'enrichissement d'uranium jusque-là gelé. Téhéran pratique l'escalade calculée. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
En fait, l'Iran veut faire pression sur ses partenaires encore engagés par ce pacte de Vienne, la Chine, la Russie, l'Union européenne, pour qu'ils l'aident à contourner les sanctions américaines. Ces sanctions asphyxient l'économie iranienne.
Oui, Pierre, comme les précédentes décisions iraniennes, il s'agit là d'une étape réfléchie, millimétrée, pour gagner du temps, sans pour autant rompre complètement une diplomatie du bord du gouffre. Nous souhaitons rester dans l'accord de Vienne, m'a assuré en privé un diplomate iranien. Toutes les mesures que nous prenons sont immédiatement réversibles, a-t-il tenu à ajouter. Malgré ce nouveau coup de canif, le président Hassan Rouhani affirme que les centrales iraniennes vont rester sous le contrôle de l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU. En sortant progressivement des clous, Téhéran espère convaincre les Européens de mettre en place des mesures de contournement de l'embargo économique et financier imposé par les États-Unis. Or, jusqu'ici, rien de concret n'a permis de desserrer les taux américains. Ainsi, Instex, le mécanisme européen de troc commercial, n'a jamais vu le jour. Emmanuel Macron a bien tenté une médiation entre Washington et Téhéran, mais qui jusqu'ici s'est soldée par un échec. Donald Trump refuse toujours que l'Iran exporte la moindre goutte de son pétrole. Sans solution en vue, Téhéran va donc poursuivre sa stratégie de la tension calculée.
Christian Chéneau, la visite d'Emmanuel Macron en Chine, il a inauguré le centre Pompidou de Shanghai. C'est la première implantation hors d'Europe du musée parisien. Il a aussi appelé la Chine à ouvrir davantage son immense marché aux entreprises étrangères. Depuis le début de cette visite, on parle d'économie, de culture, mais il est un sujet sur lequel le président français est très attendu lors de ses entretiens avec les dirigeants chinois, les droits de l'homme. Même si Emmanuel Macron a peu de chances d'obtenir des concessions, sa parole publique aurait du poids, comme l'explique Bénédicte Jeanrod, présidente du groupe Human Rights Watch France.
Pourquoi est-ce que c'est important de s'exprimer publiquement? Parce que sinon, c'est une parole qui n'est entendue que par les officiels chinois, qui n'est pas entendue par les Chinois ordinaires à travers le pays, et qui n'est pas entendue par les personnes qui sont directement confrontées à ces abus. Et il nous semble que l'ampleur des violations qui se déroulent contre la population ouïghour et qui se manifestent par une répression massive contre cette population doit nécessairement provoquer une indignation internationale publique des différents États. Et c'est pour cela que nous appelons Emmanuel Macron à sortir de la logique de la diplomatie silencieuse, de la diplomatie de la discrétion, et qu'il appelle les autorités chinoises à fermer les camps de détention et à autoriser l'accès indépendant à une mission des Nations Unies dans le Xinjiang.
Bénédicte Jeanrod au micro d'Olivier Poujade. Les sports, le football, quatrième journée de la Ligue des Champions ce soir. Lille joue sa dernière carte pour une qualification en huitième de finale en se déplaçant à Valence. Les nordistes ont absolument besoin d'une victoire en Espagne pour garder espoir. Autre match à suivre ce soir à Lyon. Lyon face au Portugais du Benfica Lisbonne. Cédric Guillou est en direct à Lyon avec nous. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Alors, il y a une grosse pression ce soir sur le gardien lyonnais.
Oui, Anthony Lopez, hein, coupable il y a 15 jours lors du match aller au Portugal d'une grossière erreur qui va vraisemblablement le poursuivre tout au long de sa carrière. C'est une certitude. Lopez qui avait relancé directement dans les pieds d'un attaquant du Benfica Lisbonne à quelques minutes de la fin du match, et alors que le score était de 1-0, il avait précipité du coup la défaite de l'Olympique Lyonnais, et les Lyonnais se retrouvent à cause de cette erreur et bien dos au mur ce soir, avec l'obligation de l'emporter pour continuer à croire aux deux première place du groupe. Ça enverrait, on le rappelle, les Olympiens en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Le problème, c'est que l'Olympique Lyonnais ne sait plus trop gagner à domicile en Ligue des Champions. Les Lyonnais restent sur 6 matchs nuls d'affilée, mais Rudy Garcia, le nouvel entraîneur de l'OL, compte sur la nouvelle dynamique retrouvée en championnat. 2 victoires de suite pour repartir de l'avant dans cette Ligue des Champions avec un joueur, Memphis Depay, l'attaquant néerlandais, qui est en grande forme. Et puis, on le disait, Pierre, Anthony Lopez Lopez dans les buts qui sera forcément revanchard après sa mésaventure du match aller.
Cédric Guillou en direct à Lyon avant cette rencontre entre Lyon et le Benfica Lisbonne.
Les prix littéraires suites, Pierre, après le Goncourt et le Renaudot hier.
Le jury exclusivement féminin du prix Fémina a couronné Sylvain Prudhomme pour Par les routes chez l'Arbalète Gallimard. C'est son 8e roman, il a 40 ans. Ilana Moriouseff, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un livre qui parle du désir de liberté à travers l'histoire d'un autostoppeur et vous avez rencontré le lauréat lors de la remise du prix.
Oui, et s'il y a bien quelque chose qui fait plaisir à entendre en cette fin de rentrée littéraire, c'est la joie d'un écrivain heureux de recevoir pour la première fois un grand prix d'automne. Écoutez la joie communicative de Sylvain Prudhomme.
Je me sens très honoré, je suis très heureux. Quand je vois la liste des lauréats de ce prix, évidemment, je suis très ému. Voilà, c'est beaucoup de livres que j'admire, qui me sont chers. L'année dernière, c'était Le Lambeau de Philippe Lançon, auquel je crois même pas qu'on puisse de toute façon succéder.
Ilana, qui est Sylvain Prudhomme? Il n'est pas encore très connu du grand public.
C'est vrai, et c'est pourquoi ce prix arrive pour lui au bon moment. À 40 ans, il a déjà une œuvre forte et il peut supporter l'éclairage quelquefois brutal qu'apporte un prix littéraire. Et puis ce roman, Par les routes, est tout simplement d'une grâce infinie. Comme tous les bons livres, il est difficile à résumer. Je dirais quant à moi que c'est un livre sur la liberté intérieure.
Ça me touche beaucoup que vous parliez de liberté intérieure. Je pense que oui, c'est un livre qui est vraiment sur la liberté et la liberté qu'on laisse aussi à ceux qu'on aime. Et pour ça, il faut être justement très libre à l'intérieur de soi, en fait. Les trois personnages principaux du livre, c'est deux hommes et Marie qui est entre deux, ils sont d'accord là-dessus, sur l'envie d'inventer un équilibre qui à la fois soit fidèle à tout ce qui est construit et qui en même temps laisse du jeu à la vie, laisse la possibilité à de l'imprévu d'advenir.
L'imprévu, c'est aussi dans le roman cette traversée de la France en autostop comme une métaphore de la disponibilité au hasard. On passe par des lieux au nom évocateur, allons, viens, beau séjour, beau soleil, et parfois l'inverse d'ailleurs, après les corps, plus rien. Je ne sais pas s'il existe une commune du nom de Lisée, en tout cas, Lisée, Sylvain Prudhomme.
Ilana Moriouseff, le Fémina étranger, a distingué le romancier espagnol Manuel Vilas pour Ordessa aux éditions du Sous-Sol. Un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre a été remis à l'Irlandaise Edna O'Brien, dont le livre Girl était dans la sélection finale. Et le Fémina essai a récompensé Emmanuel Lambert pour Giono Furioso chez Stock. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur France Inter, Fabienne Sintès, la météo, et puis le téléphone sonne.
Vous avez tout dit, donc c'est parti. Allez, la météo donc.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léa, c'est un temps encore bien agité pour demain.
Oui, une nouvelle succession de nuages et d'averses nous attend pour demain. C'est surtout les plaines du sud-ouest et l'ouest des Pyrénées qui seront le plus arrosées, avec encore des risques d'orage près du littoral et de la neige au-dessus de 1500 mètres. Le centre-est, l'ouest de la Corse et les côtes de la Manche auront aussi une journée émaillée d'averses. En Alsace, en Lorraine et sur le massif central, les averses se produiront surtout l'après-midi, mais quelques gouttes seront déjà possibles en matinée. Et puis du nord de la Seine, au Pays de la Loire, jusqu'au Limousin et au bord de la Garonne, les averses seront plus localisées. Et puis on va rajouter de l'humidité à ce temps déjà humide puisqu'une nouvelle perturbation va gagner la Bretagne avec de la pluie sur le Finistère l'après-midi. Cette perturbation va d'ailleurs gagner toutes les régions de l'Atlantique la nuit suivante avec également un coup de vent attendu sur le littoral. Et le Languedoc-Roussillon, l'est de la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur seront épargnés et auront un temps bien ensoleillé demain.
Et la baisse des températures se poursuit.
Oui, déjà en recul aujourd'hui, mais encore deux saisons, les températures vont à nouveau perdre quelques degrés demain. Il fera 11 degrés à Orléans, Besançon et Valenciennes, 12 degrés à Saint-Brieuc, Paris, Lyon et Cherbourg, 13 degrés pour Toulouse et pour Nantes, 15 degrés à Biarritz, 17 degrés à Montpellier et 18 degrés à Nice et à Bastia.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.